Bien bonjour, plaisir d'être parmi vous, et je veux commencer avec une anecdote. Alors l'histoire se passe au Canada, dans un club de hockey sur glace, tiens, et ça se passe il y a une cinquantaine d'années. Là, il y a un coach qui doit choisir un dernier joueur pour compléter sa formation de départ en vue de l'un des matchs les plus importants de toute l'année. Alors, vous comprenez, c'est une situation exceptionnelle, du jamais vu. Deux joueurs lui sont proposés pour le poste, deux. Les deux joueurs se présentent donc le jour avant le match, et le coach, qui n'est pas du coin, ne les connaît pas plus ni l'un que l'autre. Il n'a vu jouer aucun des deux garçons. Il n'a pas eu le temps de lire quoi que ce soit à leur sujet. Tout ce qui peut influencer son choix, c'est le nom de famille des deux jeunes. L'un des deux est de la région. C'est le fils du maire de la ville. L'autre, c'est un illustre inconnu. Il vient de l'ouest du pays, à l'autre bout complètement. Alors, le coach choisit le fils du maire. Mais il s'avère que celui qui n'a pas été choisi est en fait l'un des meilleurs espoirs de hockey sur glace au pays. L'équipe adverse le sélectionne in extremis, juste quelques heures avant le match. Et le soir du match, devinez qui a marqué le but gagnant qui a fait gagner l'équipe adverse? C'est cet inconnu qui n'avait pas été choisi. Quelle erreur gravissime, n'est-ce pas? Alors, c'est mon premier culte avec vous cette année. Et moi, je veux profiter de mon passage ici cet après-midi, parce que je viens un peu moins souvent cette année. Je veux profiter pour vous souhaiter à tous, je l'ai déjà fait pour plusieurs d'entre vous, à tous une merveilleuse année 2019, une année 2019 bénie. Et ma prière pour vous, c'est que Dieu encourage chacun d'entre vous. C'est que Dieu bénisse cette assemblée ici à Saint-Maur, pour qu'elle ait un impact éternel pour les gens qui habitent ici autour. Tout autour et dans le quartier. Alors, j'arrive et le train est en marche. On continue aujourd'hui, on poursuit notre série de messages dans le livre de Jacques et on va aborder un thème qui, à mon avis, n'est abordé que très rarement dans nos milieux. C'est le thème du favoritisme. Qui ici a déjà entendu parler de favoritisme pendant un message? Est-ce que ça a déjà été abordé? Oui, quelques-uns. Quand même, tant mieux, mais c'est rare, c'est quand même rare qu'on parle de ce thème. Mais ce thème, on le trouve au cœur du chapitre 2 de la lettre de Jacques. Alors, l'épître de Jacques, pour ceux qui sont pas encore très familiers avec la Bible, il y en a peut-être ici, ça se trouve parfois, des gens qui viennent à l'église et qui connaissent pas beaucoup le Nouveau Testament. Alors, la lettre de Jacques, c'est une lettre très courte, 5 chapitres seulement, et qui se trouve vers la fin du Nouveau Testament. Alors, on va relire ce texte-là. Je pense que c'est important de le relire pour qu'il prenne bien racine dans notre cœur. C'est un passage très important. Relisons ce texte-là ensemble. Je lis. « Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez, en effet, qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Et si, voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place », tandis que vous dites au pauvre « Tenez-vous là, debout » ou « Asseyez-vous par terre à mes pieds », ne faites-vous pas des différences parmi vous? Ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons? Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous méprisez le pauvre. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Et si, au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », alors vous agissez bien. Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Et si donc, tout en étant, en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi, une loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune miséricorde aux autres, mais la miséricorde triomphe du jugement. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'aimerais maintenant qu'on puisse passer un petit moment dans la prière. Vous savez, on a besoin de la miséricorde de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. On a besoin que Dieu applique cette parole à nos cœurs. On a besoin que Dieu nous rende attentifs à cette parole quand elle est annoncée. Et c'est pourquoi on veut prier maintenant. On veut demander à Dieu de l'aide. Seigneur, aide-nous. Prions. Oui, Seigneur, nous te demandons de nous parler aujourd'hui. Nous te demandons d'agir dans nos vies. Nous te demandons par ton Saint-Esprit d'appliquer cette parole extraordinaire à nos cœurs pour que notre mentalité change, pour que notre façon de vivre sur la terre change, pour que nous te glorifions. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Alors Jacques, vous avez peut-être déjà dit, mais je le répète, Jacques, pour ceux qui savent pas, c'est le demi-frère de Jésus. Alors, pendant les 3 années de la mission terrestre de Jésus, le ministère terrestre de Jésus, Jacques ne croyait pas encore dans son demi-frère. Il croyait pas encore que Jésus était le Christ, le Messie. Mais Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'après la résurrection, Jésus est apparu à son demi-frère. Imaginez comment Jacques devait se sentir. Il croyait pas encore à son demi-frère, et là, son demi-frère lui apparaît, Jésus, et là, il se convertit. Et la Bible nous dit que Jacques est devenu une des colonnes de l'Église, et il est aussi devenu le pasteur de la première communauté chrétienne de toute l'histoire de l'Église, l'Église de Jérusalem, qui comptait plus de 5000 membres. Donc voilà pour Jacques, pour qu'on se mette dans le contexte. Et ici, dès le verset 1 du chapitre 2, Jacques mentionne le nom de Jésus. Vous avez remarqué, le nom de Jésus est mentionné. Alors, ça nous semble normal pour un livre du Nouveau Testament. Bon, c'est un livre chrétien, il parle de Jésus, ça va de soi. Mais en fait, c'est le seul endroit où Jésus est nommé dans la lettre, à part au tout début, dans la salutation où Jacques se présente, Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Le seul autre endroit où on parle de Jésus. Et parce que le nom de Jésus est si peu mentionné dans cette lettre, certains ont cru que Jacques était un écrit juif. La lettre de Jacques était un traité juif, comme une sorte de paracha, comme une sorte d'enseignement moral, comme ça existait dans le judaïsme à l'époque. Et d'autres, comme le réformateur Martin Luther, ont dit que c'était une épître de paille, l'épître de Jacques. Vous avez peut-être déjà entendu cela, une épître de paille. Mais Luther avait tort. Luther se trompait. Au verset 1, Jacques donne à Jésus l'un de ses plus beaux titres de tout le Nouveau Testament. L'un de ses plus beaux titres. Dans la plupart de nos traductions françaises, du Nouveau Testament, le verset 1 se lit soit « notre glorieux Seigneur Jésus-Christ » ou « notre Seigneur Jésus-Christ glorifié ». Je ne sais pas ce que vous avez, vous, dans votre traduction, mais c'est l'un ou l'autre. Mais dans le grec, la phrase a une tournure assez différente. Littéralement, on devrait traduire le verset 1 de cette manière. « Le Seigneur Jésus-Christ, la gloire. » C'est comme ça que ça s'est rendu dans le grec. « Le Seigneur Jésus-Christ, la gloire. » Ça fait bizarre, ça. Littéralement, le Seigneur Jésus-Christ, sa gloire, c'est pas très élégant en français. Ça doit être la raison pour laquelle on n'a pas traduit comme ça. Pas très élégant. Mais cette traduction, elle est pourtant très, très intéressante. Jacques appelle Jésus la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans l'Ancien Testament, Dieu était appelé la gloire. Dieu. Jacques fait une allusion ici à la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la gloire. Jacques nous dit que la gloire, c'est Christ. La Shekina, la fumée qui montait dans le temple quand Dieu se manifestait, Jacques nous dit que ça, c'est Jésus. Notre foi nous fait contempler la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mais on peut se demander, pourquoi Jacques commence-t-il à rejeter le favoritisme de cette manière-là? Quel est le lien, en fait, entre la gloire et le favoritisme? Pourquoi Jacques met les deux ensemble? On se demande, on se pose la question. Et moi, je vous suggère ceci. C'est parce qu'au fond, au cœur du favoritisme, c'est bien une quête de gloire qui se cache le plus souvent. Pensez-y un instant. Le péché de partialité est presque toujours lié à une recherche de gloire. L'être humain est assoiffé de gloire. L'être humain veut être associé à ce qui est glorieux. Et là, j'en veux comme preuve les prix Nobel. Les Oscars, les médailles, les ballons d'or, les trophées qui sont donnés à chaque année aux uns et aux autres. Qui n'aurait pas envie de gagner l'un de ces prix? Hein? Il y a quelque chose de très très fort en nous qui est attiré par la gloire. En fait, on a tous été créés pour la gloire. Mais depuis Genèse 3, depuis le péché d'Adam et Ève, depuis la rupture, on est privé de la gloire de Dieu. Tous ont péché, nous dit l'Épître aux Romains, et sont privés de la gloire de Dieu. Et du coup, l'être humain qui est privé de la gloire de Dieu a besoin de savoir ce qu'il vaut. Il a besoin de savoir ce qui est vraiment glorieux dans le monde et sur la terre. Et Jacques, donc, commence le deuxième chapitre de sa lettre en parlant de gloire. Et là, il nous présente Jésus. Jésus exalté. Jésus dans le ciel. Jésus au-dessus de tout. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jacques fait cela? Parce que c'est notre façon de voir Jésus qui va déterminer notre façon d'estimer les autres, je répète. Notre façon de voir Jésus va déterminer notre façon d'estimer les autres. Notre foi en Jésus va bouleverser toutes nos échelles de valeur. Le verset 1 nous amène cet après-midi à nous laisser sonder. Voulons-nous un instant laisser l'Esprit de Dieu nous sonder? Le verset 1 va nous inviter chacun à se poser cette question, et posez-vous cette question maintenant. Est-ce que je suis, moi, aujourd'hui, encore subjugué par les gloires de la terre? Est-ce que je suis, moi, encore, aujourd'hui, fasciné par le statut social, par la célébrité, par la beauté, la force, la fortune, tout ce qui est du domaine des apparences? Subjugué, fasciné par tout cela, au point de mépriser les uns et d'idolâtrer les autres. Si c'est le cas, Jacques me dit que je n'ai pas encore bien perçu la gloire de Jésus. Si c'est le cas, j'ai encore besoin de regarder le Sauveur de gloire comme tout à nouveau et beaucoup plus longtemps, et beaucoup plus attentivement. Jacques nous dit que tout doit maintenant être évalué à la lumière de la gloire de Jésus. Mais il y a un problème. Il y a un problème à identifier ici. Jacques écrit à des chrétiens qui ont commencé à être transformés. Mais il y a certains réflexes d'autrefois qui sont encore là. On peut comprendre cela par expérience. C'est ce qu'on vit souvent. Commencer à être transformé, mais il y a des réflexes anciens qui sont encore là. On sait bien, on sait qu'en vivant dans le monde, on est facilement influencé par les valeurs de la société, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui se passe dans les églises à qui Jacques écrit. Alors, il faut se poser la question, quel est le contexte dans lequel Jacques écrit, justement? Mais dans le contexte juif du premier siècle, eh bien, il y avait beaucoup de pauvres. Et tout particulièrement dans l'église de Jérusalem. Alors, typiquement, les juifs se convertissaient et ils étaient mis au banc de la société. Et ils n'avaient plus rien. Leur famille les rejetait. Et on voit dans le livre des Actes des Apôtres que Barnabas, le fils d'encouragement, un jour a vendu un champ pour venir en aide aux démunis. Et un peu plus tard, on voit l'apôtre Paul organiser une collecte pour soutenir les plus indigents dans l'église de Jérusalem. Ça, c'est le contexte dans lequel Jacques va écrire. Dans l'Antiquité, d'une manière plus générale, les pauvres étaient le plus souvent livrés à eux-mêmes. Dans l'Antiquité, on exploitait les pauvres. Il n'y avait pas ce genre de sécurité sociale comme dans nos pays aujourd'hui. Et être riche, par contre, c'était toujours très bien vu. Dans l'Antiquité, un riche était toujours bien vu. Et c'est un peu pareil aujourd'hui dans nos sociétés, peut-être. Alors, dans les sociétés païennes, le fait d'avantager les riches, c'était tellement commun qu'on n'y faisait même plus attention. Normal, avantager les riches. Mais Jacques, dans sa lettre, amène les chrétiens à réfléchir à cette question. Quelle attitude l'Église doit-elle avoir face aux valeurs du monde? On le sait bien, Jésus l'a enseigné, l'Église était appelée à être différente dans le monde. Et de fait, l'Église était différente dans plusieurs domaines. Par exemple, les chrétiens étaient promptes à reprendre un adultère ou à corriger un menteur ou un voleur, prêts à condamner des attitudes d'orgueil ou d'hypocrisie. Et avec raison, parce que toutes ces attitudes, elles sont incompatibles avec la foi chrétienne. Mais, le favoritisme. Si on en croit le chapitre 2 de Jacques, les chrétiens étaient peut-être en train de glisser tranquillement, et étaient peut-être en danger de commencer à le tolérer le favoritisme dans l'Église. Et pour Jacques, il y a un voyant rouge qui s'allume. Attention. Jacques dit aux chrétiens, il nous dit à nous ici, qu'on devrait prendre ce problème très au sérieux et qu'on devrait le combattre de toutes nos forces. Alors, qui sait ce que c'est ici un angle mort? Tout le monde, hein? Si vous avez le permis de conduire, vous savez ce que c'est, hein? On vous l'a appris. Quand on est au volant, il y a des endroits qu'on ne voit pas. Et ça peut être dangereux. Quand on conduit et qu'on voit pas certains endroits. Mais savez-vous qu'il y a des angles morts dans nos vies personnelles? Savez-vous qu'il y a des angles morts dans nos cultures? Un Canadien qui vient ici en France et qui remarque comment les Français agissent, le Canadien peut voir certains angles morts que les Français ne voient pas. Et un Français qui vient dans mon pays, il voit les angles morts des Canadiens que nous on voit pas. Il y a des choses qui sont tellement acceptées dans notre société qu'on ne les considère même plus comme mal. Exemple, à une certaine époque, le colonialisme en Europe. Beaucoup de chrétiens acceptaient ça. À une époque, l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait des chrétiens qui acceptaient cela. Mais Jacques dit aux chrétiens qu'il ne faut pas juste adopter les valeurs du monde, il faut réfléchir. Le chrétien doit avoir en fait des valeurs différentes. Le chrétien doit apprendre à faire attention à ses angles morts. Exemple que Jacques prend ici pour décrire le favoritisme, c'est un angle mort pour les chrétiens de l'époque. Et son exemple peut nous paraître tellement caricatural qu'on se dit que ça ne nous concerne pas. Hein? Un riche qui entre avec ses grosses bagues et un pauvre qui porte des haillons et qui sent mauvais, l'un qui s'assied devant et l'autre par terre. Nous, on peut facilement se dire, on fait pas ça, nous, dans notre église. On fait pas ça. Donc, pas de problème. Mais, le favoritisme, ça peut prendre des formes beaucoup plus subtiles, vous savez. Dans notre église, on va peut-être pas dire à un pauvre ou à un SDF de s'asseoir au fond de la salle. Mais est-ce qu'on est prêt à inviter un SDF, s'il vient dans notre église, l'inviter chez nous, dans la maison? Dans notre église ou dans notre communauté, on va peut-être jamais exclure de nos rassemblements un jeune qui est un peu excentrique et pas très cool. Mais est-ce qu'on va penser à lui téléphoner quand on fait une sortie au cinéma avec le reste du groupe des jeunes adultes? Les personnes les moins populaires dans l'église, est-ce qu'on va vouloir passer du temps avec elles? Et les personnes qui nous ressemblent le moins, est-ce qu'on va vouloir faire un effort pour aller leur parler? Voyez-vous? Peut être subtil. Moi, quand je faisais du stop un jour au Canada dans les années 70, ça se faisait beaucoup à l'époque, et j'en ai fait beaucoup. J'avais pas beaucoup d'argent. Alors, je faisais du stop un jour au Canada, chrétien, et un homme à l'apparence dure, gros tatouage, un fier à bras, des gros bras, puis s'arrête avec la voiture, et il me fait monter. Alors moi, j'avais demandé à Dieu de me donner des occasions de témoigner de l'Évangile. Mais en regardant le bonhomme, je me suis dit, je pense qu'on va passer cette fois-ci. J'étais pas prêt à lui parler de Jésus. Mais Dieu me travaillait. Incroyable. Ça travaillait à l'intérieur. J'avais une heure de route à faire, et puis Dieu, il mettait la pression dans mon cœur. Tu m'as prié, Pierre. Qu'est-ce que t'attends? OK. Et quand j'ai fini, finalement, par ouvrir la bouche et à parler de Jésus, j'ai été surpris, étonné. En fait, ce monsieur-là, il est très ouvert à l'Évangile. Sa sœur était chrétienne et il avait soif de Dieu. Quelle leçon, mes amis. Quelle leçon. Moi, je l'avais exclu à cause de mes préjugés. J'avais jugé dans ma tête que lui, il pouvait pas être intéressé à l'Évangile. Voyez-vous comment les choses se passent? Le favoritisme, c'est une tentation qui est bien présente dans nos milieux, qu'on veuille l'admettre ou pas. Dans certaines églises, par exemple, aujourd'hui même, on n'ira peut-être pas évangéliser dans un quartier mal famé de la ville. Pourquoi? Parce qu'on veut pas de ce genre de marginaux au culte. On va peut-être plutôt cibler les hommes d'affaires, les businessmen ou des cadres, parce que on se sent plus à l'aise avec ce genre de personnes-là. Dans certaines communautés, on va peut-être choisir comme responsable d'un ministère bien en vue, peut-être l'enseignement, l'école du dimanche, la trésorerie. On va peut-être choisir une personne bien en vue pour faire cela, une personne qui a de l'influence, même parfois sans se demander si la personne a les qualifications bibliques pour remplir ce ministère. Vous voyez comment ça se passe? On va peut-être aussi discipliner un chrétien d'origine modeste différemment du chrétien riche parce qu'on a peur que le riche arrête de donner sa dîme si on lui parle mal. Il faut faire attention, il ne faut pas le reprendre trop sévèrement, il pourrait quitter l'Église. Ça fait sourire, mais ça existe, vous savez. attention au favoritisme. Attention au favoritisme, qu'il soit évident ou plus subtil. Alors, pour quelle raison le favoritisme est-il à dénoncer aux yeux de Jacques dans le chapitre 2 ici? Mais Jacques présente trois raisons majeures pour dénoncer le favoritisme. La première est celle-ci. Quand on favorise les riches et quand on méprise les pauvres, on agit à l'opposé de ce que Dieu fait. Je répète, quand on favorise les riches, quand on méprise les pauvres, on agit à l'opposé de ce que Dieu fait. Pensez-y un instant. Dans le plan de Dieu, c'est la grâce qui règne, n'est-ce pas? La grâce qui règne. Ce ne sont pas les avantages humains, comme la richesse ou le statut social ou la beauté qui règnent, mais c'est la grâce. Alors, le favoritisme contredit la façon dont Dieu agit dans le monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses folles, les choses qui ne sont pas, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et nous, quand on fait du favoritisme, on voudrait choisir sur une autre base, selon d'autres critères que ceux de Dieu. Voyez-vous ? En fait, il faut se rendre compte que quand on favorise les riches, les forts, ceux qui ont un statut social plus élevé, quand on les exalte, ben, on leur communique un message qui est contraire à l'Évangile. Et là, j'explique. La bonne nouvelle nous appelle tous à reconnaître qu'on est pauvre devant Dieu, spirituellement. Peu importe la personne, tout être humain est pauvre devant Dieu. Le royaume de Dieu est à ceux qui se reconnaissent comme des pauvres spirituels, ceux qui ont fait banqueroute spirituelle. Le riche, autant que le pauvre, a besoin de la grâce de Dieu et notre façon de le traiter peut lui donner à penser qu'il n'a besoin de rien. Nous, on l'exalte, donc il a tout, il n'a pas besoin de l'Évangile. Voyez-vous ? Et ça, c'est une insulte à la grâce de Dieu. Quand on favorise les riches au détriment des pauvres, il y a une autre chose de grave aussi. On méprise le pauvre. On fait le contraire de Dieu. Parce que Dieu, en sauvant un chrétien qui est pauvre, Dieu l'a honoré et nous, on le méprise. Voyez-vous ? On agit à l'opposé de ce que Dieu fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième raison pour dénoncer le favoritisme. Quand on fait du favoritisme, on s'érige en juge. On prend la position de Dieu. Mais on le sait bien, aucun être humain n'est autorisé à prendre la position de Dieu. C'est pas notre rôle de faire cela. Et même, je dirais que c'est prétentieux. C'est orgueilleux. C'est arrogant. Nous, autant que nous sommes ici, les êtres humains, on est des sujets de la loi. Mais le législateur, c'est Dieu. En plus, quand on se pose en juge, je peux vous l'assurer, on est toujours incompétent. Aucun être humain ne peut juger d'une manière compétente dans le domaine spirituel. Parce que, contrairement à Dieu, nous, on ne voit que l'extérieur des choses, voyez-vous ? On ne connaît pas les motivations des gens, on ne connaît pas les cœurs. On attribue une valeur à quelqu'un en se basant sur le porte-monnaie, ou sur l'apparence physique, ou sur la façon de parler, ou sur les diplômes. Et notre jugement ne peut qu'être superficiel et faux. Et ça, c'est une leçon que le prophète Samuel avait appris très très bien lorsqu'il était allé pour remplacer Saül. Il voit les fils du prophète, il voit les fils du papa de David, Isaïe, et là, il voit le plus grand, Éliab, et il dit, c'est lui. Il se basait sur quoi? Il se basait sur sa taille. Et il se trompait. Et là, le prophète a dû lui dire, l'homme juge selon les apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Deuxième raison, quand on fait du favoritisme, on s'érige en juge. Troisièmement, quand on agit par favoritisme, on transgresse la loi royale. Un chrétien, vous le savez bien, appartient au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il a un roi. Et le roi, c'est Jésus. Et le royaume de Dieu a aussi d'autres règles que celles du monde. Dans le monde, la règle, c'est de juger selon les apparences. Ça, c'est la règle. Même si on s'en défend bien, on fait souvent cela. Entretien d'embauche, premières impressions, et puis on choisit lui plutôt que lui. Mais Jésus a dit que la loi du royaume est résumée par deux commandements. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Et ce que Jacques nous dit ici, c'est que quand on a des préjugés, on viole la loi du roi. Et pas seulement un petit bout de la loi. Jacques nous dit qu'on viole toute la loi. Et le favoritisme fait de nous des hors-la-loi. Des hors-la-loi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'un chrétien pourrait, par exemple, être un modèle dans plein de domaines de sa vie. Un chrétien pourrait être, par exemple, serviable. Il pourrait être hospitalier, généreux. Il pourrait évangéliser. Il pourrait connaître sa Bible sur le bout de ses doigts. Il pourrait faire son culte personnel à tous les jours. Mais s'il est partial, s'il fait du favoritisme, il est coupable sur toute la ligne. Et là, Jacques, il emploie une belle image pour décrire la situation. J'aime bien cette image. Jacques dit que la loi, c'est comme une chaîne. Et dans une chaîne, s'il y a un maillon qui s'est rompu, toute la chaîne est cassée. Vous êtes d'accord? Hein? Qui aimerait prendre cette chaîne-là pour attacher son vélo, quelque part, quand il y a un maillon qui est cassé? Personne. On va se faire voler son vélo. La chaîne ne sert plus à rien. Moi, je ne sais pas comment vous vous sentez en lisant ces versets-là. On vient de parler de versets qui sont lourds de sens. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cela? Moi, je pense que la fin du passage nous place tous, en fait, sous la même enseigne. Même la loi royale, même la loi de l'amour, qui, je pense, doit faire l'unanimité parmi nous aujourd'hui, on est tous d'accord que aimer les autres, c'est une bonne chose. Même cette loi-là, on lui a désobéi. On l'a transgressée. Voyez-vous ce que Jacques est en train de faire ici pour nous aujourd'hui? Jacques a voulu nous amener à un point précis, à dessein. Il a voulu faire ça à dessein, volontairement. Il a voulu nous laisser là où personne ne va pouvoir se mettre au-dessus des autres. Voyez-vous, c'est ça que Jacques a voulu faire ici. Il nous a tous amenés à un point où on est exactement les mêmes. Riche, pauvre, star, personne inconnue, top modèle, personne moche. On est tous pareils devant Dieu. Mais alors on peut se poser la question, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment se sortir de cette situation? Comment échapper au jugement que nous méritons tous? Comment surmonter les préjugés dans notre vie? Et il y en a. Comment on va se débarrasser du favoritisme dans l'Église? Et il y en a. Vous savez, il s'agit pas simplement de savoir que le favoritisme, c'est mal. Parce que je pense que jusqu'ici, on a bien compris que c'est pas une bonne chose. Il ne s'agit pas juste de savoir. On n'a pas besoin que d'information. On a besoin de transformation, voyez-vous? Et la transformation, c'est possible qu'au moment où on reçoit la miséricorde de Dieu. La fin de notre passage parle de la miséricorde de Dieu. Mes amis, on a besoin de la miséricorde de Dieu. Que Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. C'est ça la miséricorde. L'antidote au favoritisme, c'est le verset 1. Merci. L'antidote au favoritisme, c'est le verset 1. Je vais le relire. C'est notre foi dans notre glorieux Seigneur Jésus-Christ qui a porté nos péchés pour nous, qui a porté nos préjugés et notre favoritisme sur la croix. Alors, pour retrouver la gloire perdue, pour combler le besoin presque insatiable qu'il y a dans notre cœur pour être reconnu, pour être reconnu pour ce qu'on vaut vraiment, notre foi ne doit plus être placée dans la richesse humaine ou dans les forces ou les avantages humains, quels qu'ils soient, mais notre foi doit être placée dans l'Évangile. Notre foi doit contempler Jésus et le laisser appliquer à notre cœur sa loi d'amour. Notre foi doit contempler la miséricorde de Dieu sur le visage de Christ et le laisser nous pardonner de tous nos préjugés, des préjugés qui ont rongé notre vie jusqu'à présent. La question pour nous, cet après-midi, elle est bien simple. Est-ce qu'on a fait cela? Est-ce qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ? Chacun de nous, on doit laisser Jésus conquérir notre cœur. On doit laisser cette beauté de Jésus-Christ, son amour, sa grâce et son pardon nous conquérir. On doit laisser Jésus faire cela en nous. Est-ce que Jésus a conquis ton cœur cet après-midi? Alors, la solution que Jacques apporte à notre problème de favoritisme, c'est simple au fond, c'est Jésus. Notre foi en Jésus va produire l'amour du prochain. Notre foi en Jésus va nous faire préférer la miséricorde au jugement quand on aborde une personne différente de nous. Notre foi en Jésus va nous guérir de nos préjugés. Contempler Jésus-Christ qui est la gloire de Dieu. Je termine avec une histoire qui se passe aux États-Unis. On rapporte qu'à l'époque de Ronald Reagan, un ancien président des États-Unis, on raconte que à l'époque où il était encore gouverneur de la Californie, c'était à la fin des années 60, Ronald Reagan avait l'habitude d'aller dans son église avec sa femme Nancy. Ronald et Nancy Reagan. C'était une église presbytérienne. Et dans son église, on leur avait réservé deux places, à Ronald et à Nancy. Deux places d'honneur. Ah, c'était rien d'officiel, il n'y avait pas de nom sur les bancs. Mais les réguliers d'église étaient au courant de cette règle non dite. Les deux places-là, c'était à Ronald et Nancy. Un jour, il y a deux étudiants étrangers qui arrivent à l'église et sans le savoir, ils prennent la place des Reagan. Aïe, 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 aïe. Problème, shocking, comme diraient nos amis. Alors, l'un des placeurs dans l'église, il s'en rend compte. Alors, il s'empresse d'aller voir les deux jeunes et il leur commande d'aller s'asseoir ailleurs. Monsieur, il leur montre un banc derrière, là. Alors, les deux jeunes, ils comprenaient pas très bien ce qui se passait. Mais bon, ils ont changé de place, ils sont allés s'asseoir derrière. Et en fait, la plupart des gens dans l'église trouvaient que c'était normal de faire comme ça. Sauf une personne. Le pasteur. Le pasteur. Après le culte, le pasteur est allé parler au placeur. Le pasteur avait compris Jacques 2. Le pasteur avait laissé la gloire de Jésus changer sa vision des choses. Il s'était laissé imprégner par la gloire de Jésus et ça l'avait amené à traiter les gens pareil, peu importe qui c'est. Alors, le pasteur a repris les placeurs d'une manière assez fraternelle et il leur a dit que ce genre de situation ne devait plus jamais se produire à l'avenir dans l'Église. Je relis le verset 1. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Que le Seigneur nous aide. Prions. Seigneur Jésus, Nous te remercions parce que toi, tu n'as pas regardé à notre apparence extérieure. Tu n'as pas regardé à notre situation humaine. Tu n'as pas regardé même à la profondeur de notre péché. Tu es venu nous chercher, Seigneur, et tu nous enseignes qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Tu nous as tous sauvés, peu importe l'arrière-plan. Et Seigneur, tu nous appelles maintenant à pratiquer la loi de l'amour, la loi royale. Seigneur, nous voulons que dans cette Église, la miséricorde triomphe du jugement. Nous voulons que dans cette Église, nous vivions la loi royale. Mais Seigneur, pour cela, nous reconnaissons que nous avons besoin de regarder comme tout à nouveau à la gloire de Jésus-Christ pour que tout ce qui peut être encore de cet aspect de préjugé qu'il y a en nous, que ça puisse disparaître. Nous te demandons de nous pardonner nos préjugés. Nous te demandons de purifier toutes nos fautes et de nous transformer pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Amen.